Voilà, je vous propose qu'on se confie à la Vierge Marie pour cette heure sainte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame du Bon Conseil, j'ai demandé l'intercession de Notre-Dame du Bon Conseil. Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez, et vous aussi, auditeurs et auditrices de Radio Espérance. Donc, lorsque j'ai préparé cette heure sainte, j'ai pensé à vous, mes sœurs de la Visitation, parce que je me suis dit, depuis le temps qu'elles entendent des heures saintes, ça doit être parfois un peu la même chose, ou pas. Voilà. Je me suis dit, mais comment se renouveler sans cesse en parlant, parce que tous les sujets sont possibles sur l'heure sainte, c'est souvent évidemment les textes de l'agonie, et je me suis dit, mais peut-être que les sœurs, elles en ont un peu assez, ou alors je ne sais pas comment elles vivent ça intérieurement. Bref, toujours est-il que j'ai repris les textes de l'agonie quand même. Et j'aimerais les relire avec, en prenant le temps d'appuyer sur les mots et de voir un petit peu quelle réalité ça peut avoir pour nous. Alors, la parole de Dieu dans le chapitre 26 de saint Matthieu nous dit « Alors Jésus parvient avec eux, en parlant des disciples, à un domaine appelé Gethsémani. » Alors, je ne m'étais jamais fait la réflexion du mot « domaine ». C'est un domaine. Alors, nous, quand on pense à un domaine, on pense à un endroit clos. On dit ben, « ça, c'est mon domaine, tu n'as pas le droit d'y entrer. » Ça, c'est telle ou telle qualité qu'on a. On dit ben, « ça, c'est mon domaine. » Voilà, c'est comme parfois des dames dans leur cuisine. Je ne veux pas assimiler forcément les dames à la cuisine, mais voilà, ça, ou alors un jeune qui dit ben ça c'est mon domaine, c'est ma chambre. Tu rentres pas, c'est mon domaine. Et donc Jésus parvient à un domaine appelé Gethsémani. Nous le savons, c'est un endroit qui est un jardin avec des arbres donc qui ont plusieurs centaines d'années, ces oliviers, et donc c'est dans un jardin que tout a commencé, avec le jardin d'Éden, et c'est dans un jardin que le Christ va livrer ce combat. Parce que ce domaine est devenu le lieu du combat, cet endroit clos. Voilà. Le Christ va vivre avec son cœur ce lieu du combat. Ce jardin va devenir une arène où il va combattre. Saint Jean-Paul II disait, en parlant du combat spirituel, que c'est une lutte qui devient crucifiement dans l'arène de la solitude. Alors Jésus, qui a l'habitude d'aller à Gethsémani, dans cet endroit, ce soir-là particulièrement, ça va être un lieu qu'il connaît, bien sûr, puisqu'il s'y est rendu souvent avec ses apôtres, mais ce soir-là, ça devient une arène où il va combattre pour chacun et chacune d'entre nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, pour sauver nos âmes. Jésus va combattre pour sauver nos âmes. Le combat commence à Gethsémani. Gethsémani, nous savons, ça signifie le pressoir à huile. Alors quand on imagine un pressoir, souvent ici en Bourgogne, un pressoir, on en a beaucoup, pour le vin, donc c'est une machine pour extraire le jus. Donc ça exerce une pression très forte sur les fruits et légumes, parfois, pour extraire le jus. Alors, quand on a cette image de pressoir, c'est ce que Jésus va vivre. Il va être pressé. Et pressé à tel point que, voilà, on imagine une pression énorme, à tel point qu'il ne reste plus rien de la carcasse, entre guillemets, du fruit, mais juste le jus. Ça donne une impression de la souffrance du Christ, je trouve. Combien est-ce qu'il a pu être complètement écrasé par la souffrance. Isaïe nous dit broyé par la souffrance. Voilà. C'est pas simplement ah j'ai mal, mais je suis broyé. Donc voilà, il y a plus rien, comme le dit Isaïe, il n'y a plus rien dans ma chair qui est sain, je suis littéralement broyé. Ça nous donne une mesure de la souffrance du Christ. Parce qu'on s'y habitue en fait à voir Jésus en croix, ou oui, mais broyé par la souffrance, écrasé. Donc, et ce pressoir à huile, alors l'huile c'est très présent dans la Bible, hein, on le voit avec l'onction des rois, notamment le roi David, qui est oint par Samuel. L'huile, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, d'abord, ça sert de nourriture. Ça sert de nourriture, l'huile. Et puis, ça sert aussi pour soigner. On le voit dans la parabole avec, par exemple, le bon samaritain qui verse de l'huile et du vin sur le blessé. C'est exactement ce que Jésus vit sur la terre pendant son ministère. Jésus, eh bien, il nourrit les foules par sa parole. On sait que, eh bien, les gens s'agglutinaient au point de l'écraser. Hein, on voit ça dans l'Évangile. Les gens déjà vont écraser Jésus tellement ils sont avides de l'approcher, voilà, comme aujourd'hui des personnes très célèbres. Voilà, on veut s'approcher. Voilà, la foule est sur le point de l'écraser. Alors c'est pour ça qu'il va sur le bateau, eh bien avec sur le lac de Génézareth, pardon. Donc, pendant sa vie sur la terre, Jésus va nourrir par sa parole, et puis il va nourrir aussi les foules. Nous l'avons entendu il n'y a pas encore si longtemps avec la multiplication des pains, des poissons. Voilà. Et puis, bien sûr, Jésus soigne par sa parole. Voilà. Rien que par sa parole, tellement forte que il y en a une qu'on reprend à toutes les messes. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donc Jésus soigne, guérit par sa parole, et puis en touchant les malades, ou en se laissant toucher aussi. La femme hémorroïse, voilà, rien qu'en touchant les malades. Donc celui qui va être dans le pressoir, d'où va sortir l'huile, est déjà, eh bien, ce médicament et cet aliment. Voilà. Jésus dit aux disciples, restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. Toujours une distance, mais il va prendre avec lui trois apôtres, nous le savons, Pierre et les deux fils de Zébédée. Alors, Pierre, c'est celui qui va prendre souvent la parole dans l'Évangile. On a beaucoup de paroles de Pierre, de Simon, devenu Pierre. On en a un peu moins des autres, mais Pierre et les fils de Zébédée, on en a quelques-unes. Pierre va dire à Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 27, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera notre part ?» Voilà. C'est un homme qui est habitué à suivre Jésus. Voilà. Et ensuite, les fils de Zébédée, dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, à partir du verset 38, Jean, l'un des douze, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jean, il est très fier de suivre Jésus. Il dit, voilà, ben, c'est pas n'importe qui suit Jésus. Moi, j'ai le droit, parce que je suis avec toi, Jésus, mais lui, il n'a pas le droit. Il mérite bien son surnom de fils du tonnerre, avec son frère Jacques. Dans l'évangile de Luc, Jésus envoie en avant de lui des messagers et ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» C'est clair, hein ? Ils ne veulent pas suivre Jésus. On les détruit. Ça mérite d'être clair. Voilà, c'est les paroles des apôtres. Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. C'est pas bien, les gars. Il ne dit pas ça comme ça. Mais puis, ils partirent pour un autre village. Voilà. Ces trois apôtres, eh bien, ce sont ceux qui sont habitués à suivre Jésus. Ils sont fiers. Ils sont à la proximité la plus proche du Christ. Tellement, eh bien, que la maman des fils de Zébédée s'en aperçoit quand même. C'est une maman. Elle voit bien les choses. Les mamans, ça voit tout. Souvent. Sauf quand les enfants deviennent adolescents. Mais là, comme elle est des femmes qui suivent Jésus, eh bien, elle s'approche de Jésus avec ses fils. Elle les emmène tous les deux. Chut, hop. Allez les gars, on va y aller. On va faire une demande. Et elle se prosterne pour faire une demande. Et Jésus la voit venir de très loin. Il lui dit, que veux-tu ? Elle répondit, ordonne que mes deux fils, que voilà, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Bon, elle veut placer ses petits. Et Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? Jacques et Jean, nous le pouvons. Ah, on est avec toi, on est tes copains. Hein, tu nous connais, voilà, on t'aime, on va te suivre de toute manière. Alors on peut la boire la coupe. Voilà. Il leur dit, ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Donc, ces trois apôtres, voilà, Pierre qui dit, nous avons tout quitté, je te ferai remarquer que j'ai tout quitté pour toi, donc quelle sera notre part ? Et puis, Jacques et Jean qui disent, nous, on est vraiment dans l'entourage proche de Jésus, nous, on le connaît, voilà, on est habitué à le suivre. Ces trois apôtres sont les témoins privilégiés de pas mal de choses. D'abord, ils sont les témoins de la résurrection de la fille de Jaïr. C'est-à-dire que cette fille de 12 ans qui décède, eh bien, nous montre par là que Jésus est vraiment présent au cœur de notre souffrance. Quoi de plus révoltant qu'un enfant qui vient de mourir ? La semaine dernière, j'étais au chevet d'un petit garçon de 4 ans qui s'est noyé dans une piscine. Je voyais effectivement la douleur des parents. Et il n'y a pas de mots. On ne peut être qu'avec les gens et les accompagner de notre présence. Donc Jésus, eh bien, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et c'est le maître de la vie. Et nous le savons, il va ressusciter cet enfant. La mort n'a pas le dernier mot avec le Christ. C'est fantastique ce que voient ces trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Ils voient Jésus ressusciter une enfant. Alors le pouvoir du Christ est phénoménal. Même la mort n'a rien contre lui. Alors cette image, elle va profondément être ancrée dans le cœur des apôtres et dans leur regard. Et puis ça va être d'autant plus assuré que ces trois mêmes apôtres vont être les témoins privilégiés de la transfiguration. Alors non seulement Jésus c'est vraiment le maître de la mort et de la vie, mais en plus il apparaît dans toute sa gloire et entouré de Moïse et d'Élie. Moïse symbolisant la loi et Élie les prophètes. Tout l'Ancien Testament, voilà, tout ce que ces Juifs connaissent du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, eh bien, vont être progressivement, eh bien, extrêmement marqués par l'apparition qu'ils vont voir. Et, eh bien, après cette résurrection de la fille de Jaïr, cette transfiguration, eh bien, ils voient bien que tout est remis dans les mains du Fils par le Père. Parce que le Père va dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, ces trois apôtres vont être privilégiés de Jésus comme le maître de la vie et le roi de gloire. Alors, il va y avoir un petit moment où les choses vont se compliquer, c'est quand Jésus va commencer à annoncer sa passion. Parce que Pierre le prend à part, pas devant tout le monde, il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Parce que juste avant, Jésus interroge chacun en disant, pour vous, qui suis-je ? Et Pierre va dire, mais tu es le Christ, on l'a vu, c'est extraordinaire. Tu ressuscites les morts. On t'a vu dans toute ta gloire. Enfin, on ne le dit pas aux autres, hein, parce que la transfiguration, ils ne l'ont pas dit tout de suite. Mais tu es le Christ, c'est évident. Et c'est celui qui va transfigurer le monde. Alors Jésus défend vivement d'en parler. Et il commence à enseigner en disant qu'il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Ah, là ça va. Jésus disait cette parole ouvertement. Et Pierre, lui, le prend à part en lui disant, en plus il lui fait des reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Il a dû se passer quelque chose dans le cœur de Pierre à ce moment-là. Une faille. Comment se fait-il que cet homme, qui est le Fils de Dieu, puisse annoncer une telle chose? Et en plus, il a l'air de vouloir y aller. Dans le sens où je ne comprends pas quel est le dessein de Dieu. Et Jésus continue. En appuyant, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il échanger en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles. Alors on s'imagine cette phrase qui a dû résonner dans le cœur de Pierre après. Celui qui a eu honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte aussi de lui quand il viendra dans sa gloire de son Père avec les saints anges. Comment cette phrase a dû résonner dans le cœur de Pierre après son reniement? Alors il nous est dit qu'à Gethsémani, pour revenir dans ce lieu, dans ce domaine, Jésus commence à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit « Mon âme est triste à mourir, demeurez ici et veillez avec moi. » Ces 3 apôtres, 3 témoins privilégiés qui voient Jésus comme le maître de la vie, le roi de gloire, là ce soir, ils découvrent un homme en proie à l'angoisse et à la tristesse. Un homme qui combat contre la mort alors que les apôtres pensaient qu'il en était le maître. Mais Jésus s'est fait homme. Et comme homme, pour tuer la mort, il faut qu'il accepte qu'elle entre en lui. Comme si son corps et son âme allaient devenir le tombeau de la mort. Il faut qu'il emprisonne la mort, qu'il la mette sous son pouvoir. Bien, c'est vrai comme Dieu, mais il faut aussi que ça soit vrai comme homme. Le combat de Jésus est d'accepter de se laisser absorber par la mort. Donc la technique du combat de la mort est d'abord de faire peur. Une peur atroce en pressant sa victime par la tristesse et l'angoisse. Le serpent va d'abord commencer à enserrer le Christ par la tristesse et l'angoisse. Et Jésus demande à ses disciples de ne pas le laisser seul, qu'il veille avec lui. Jésus compte sur la compagnie de ses apôtres et de leurs prières. C'est pour ça que tout à l'heure, Jésus compte sur notre prière aussi. Jésus compte sur la prière pour se sentir soutenu dans l'offrande de son sacrifice pour sauver l'humanité. C'est vraiment la demande de Jésus à Marguerite Marie. Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en faisant cette prière. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. » Jésus donc a la face contre terre, cette terre qu'il va sauver par son sacrifice. Je ne sais pas si on s'est déjà imaginé, tout à l'heure je me suis imaginé Jésus vraiment la face contre terre. Voilà. On n'a pas l'habitude, on ne voit pas beaucoup ça, qu'il est vraiment bien le front en touchant le sol. Il implore son Père que cette coupe de souffrance et de mort passe loin de lui. Il est le nouvel Adam, celui qui va soumettre la création par son obéissance. Et il va faire entrer dans toute la création toute chose nouvelle. Saint Alphonse de Ligorie, que nous avons fêté hier, écrit que Dieu a donné une âme dotée à son image de mémoire, d'intelligence et de volonté. Il a donné à l'homme un corps pourvu d'organes sensibles. C'est encore pour lui qu'il a créé le ciel et la terre, avec tout ce qu'ils contiennent. C'est par amour de l'homme qu'il a créé tout cela, afin que toutes ses créatures soient au service de l'homme et que l'homme lui donne son amour à cause de tant de bienfaits. Donc, cette création, nous le savons, la création aspire tout entière à voir la révélation des fils de Dieu. Cette création, elle est aussi dans un enfantement et elle est appelée à être transformée, transfigurée. Et donc, ce nouvel Adam va prendre le chemin de l'obéissance en disant à son Père, « Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » La différence avec Adam, c'est que Adam s'est rebellé contre Dieu en ne lui faisant pas confiance. On pense souvent que se rebeller contre Dieu, c'est ne pas faire sa volonté, mais c'est aussi ne pas lui faire confiance. Ici, nous avons saint Claude de la Colombière, l'apôtre de la confiance. Alors, c'est dire toute la portée, peut-être, qu'on pourrait creuser dans nos cœurs en disant, mais c'est vrai que quand je ne décide pas de faire confiance, Seigneur, je prends d'autres chemins. Donc, d'une certaine manière, je me rebelle contre toi. Je ne me laisse pas guider par ton amour. Et donc, j'écoute la voix de l'ennemi, comme Adam. Jésus se fait obéissant et par là ouvre un chemin de vie en acceptant la volonté de Dieu sur lui pour le monde. Il vient vers les disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi. » Pourtant Pierre, dans l'évangile de saint Jean, il lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Peut-être que nous aussi, on a envie de dire ça au Seigneur. Jésus réplique, « Tu donnerais ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. » Ce qui est beau, c'est que le Seigneur ne désespère pas de son apôtre. Il dit, « Tu me suivras plus tard. » Pierre est celui qui veut être avec Jésus. Il croit que son amour est suffisamment fort pour rester avec Jésus, quoi qu'il en coûte. Mais il n'a pas la force de veiller. On peut se poser la question pour nous, à travers la parabole du grain qui est semé. Il y en a qui, à cause d'une persécution, effectivement, est-ce que je serais fidèle si les chrétiens étaient persécutés? En tout cas, jusqu'au sang. Celui qui aura honte de moi et de mes paroles dans l'évangile. Voilà. Est-ce que moi je suis prêt à suivre le Christ? On peut prier les uns pour les autres pour ça. Mais il n'a pas la force de veiller. Pierre n'a pas la force de veiller. Et pourtant, Jésus leur dit, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent. » Bien sûr qu'on veut tous suivre le Seigneur. On le veut tous ici. Mais, est-ce qu'il y a un mais? L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Comme disait Charles de Foucault, s'il arrive que l'on succombe à une tentation, c'est que l'amour est trop faible. Ce n'est pas qu'il n'existe pas. Il faut pleurer comme saint Pierre, se repentir comme saint Pierre, s'humilier comme lui, mais aussi dire par trois fois, Je vous aime, je vous aime. Vous savez que malgré mes faiblesses, mes péchés, je vous aime. Voilà, Charles de Foucault. Donc nous pouvons, grâce à Pierre qui est tombé et s'est relevé, nous aussi suivre le Christ. Peut-être pas dès la première fois, mais plus tard. Alors, nous dit le texte, apparut un ange venant du ciel qui le réconfortait. Le seul être qui va réconforter le Christ, c'est un ange. Un ange, pour lui, j'oserais dire, le sacrifice du Christ n'est pas nécessaire pour lui personnellement. C'est un ange. Il a déjà fait son choix. Il est avec Dieu. Un ange a accepté le plan de Dieu et a désiré servir son dessein. Tous les anges, les chérubins qui parlent avec Marguerite Marie dans la petite cour à côté, là, eh bien, ce sont ceux qui ont accepté le plan de Dieu. Dieu s'est fait homme et non pas ange. Dieu vient transfigurer la condition humaine et non pas la condition angélique. Il vient diviniser l'homme, pas l'ange. L'ange restera pour l'éternité ange. Dans une condition angélique, et il servira même les hommes dans la gloire de la résurrection. Nous serons tous plus grands que n'importe quel ange, y compris Saint Michel. Ah, 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 ah. Ça donne le vertige, hein, parce que Dieu s'est fait homme et non pas ange. Donc, un ange qui sert, qui réconforte le Christ, c'est pas pour lui qu'il le fait. C'est vraiment pour dire, ben, va jusqu'au bout de ton sacrifice pour transfigurer cette condition humaine que nous servirons avec joie et bonheur. Donc, ils servent Dieu à travers leurs prières et leur disponibilité. Ils peuvent nous communiquer ça, hein, de, si on leur demande. Jésus entre en agonie. Il priait de façon plus instante et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Le processus de mort est de plus en plus oppressant et Jésus va de plus en plus mal. Mais plus il va mal, plus il prie. Ça, pour nous, ça peut être une leçon. Plus il va mal, plus il prie. À tel point qu'il a des signes de ce qu'on appelle une hématidrose. C'est une maladie due à une anxiété et un stress extrême. C'est les gouttes de sang qu'il transpire. De grosses gouttes de sang tombent à terre et imbibent le sol, comme la mort fait son œuvre dans la personne du Christ. Dans un mystérieux échange, la terre reçoit la semence de vie à travers le sang du Christ. Cette semence va donner l'arbre de la croix, qui sera l'arbre de vie. Et le fruit de cet arbre est le fruit de l'obéissance du Christ. Le Christ qui va donner sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Désormais, tous ceux qui s'approcheront de la croix et en goûteront le fruit, goûteront aussi le miel de la douceur de vivre en Dieu, mais connaîtront aussi au fond d'eux-mêmes l'amertume de prophétiser et de ne pas être reçu comme les prophètes. On peut revoir ça dans une image à travers Apocalypse, chapitre 10, quand eh bien, l'apôtre goûte le petit livre, la parole, elle est douce comme le miel, mais en même temps très amère. Ainsi, il faut nous demander de veiller, de rester en présence du Christ comme témoin de son amour pour tous les hommes. Devant le Saint-Sacrement, dans quelques instants, nous pourrons assurer le Christ de notre présence, de notre fidélité, pour lui manifester que son sacrifice n'a pas été vain. Soyons présents au Christ, Comme le Christ est présent pour nous, le théologien Hans-Urs von Balthasar, dont nous fêtons le 30e anniversaire de sa mort cette année, l'exprimait en ces termes. Plus que toute autre chose, la souffrance du monde empêche l'accès de Dieu. Dieu ne semble pas capable de se rendre crédible comme tel sur la terre. La souffrance crie trop haut pour que l'on réussisse à passer sans l'entendre. Elle crie beaucoup trop fort hier, aujourd'hui et demain pour qu'on puisse l'apaiser en rêvant d'un lointain avenir. Il n'y a pas de réponse ici avec des mots. Et Dieu ne donne pas d'autre réponse que la folie de la croix, qui triomphe seule du non-sens de la souffrance du monde. Ce que Jésus éprouve comme pure ténèbre est la lumière de l'amour. Ce qu'il éprouve comme chaos est l'ordre de la grâce. Ce qu'il éprouve comme abandon de Dieu est la présence de Dieu avec le pécheur. Bonne heure sainte.